Sans tabou, 12h-12h30, avec Anne-Sophie et Jérôme.
Parfois, les journalistes l'oublient, mais les mots ont un sens. Faute de toujours maîtriser leur langage, ils véhiculent parfois, malgré eux, des images, des idées. Et c'est justement ce qu'il s'est passé la semaine dernière suite au récit de Flavie Flamand qui a déclaré avoir été violée dans son adolescence. Et vous remarquez que je dis être violée et non pas s'être fait violer. Parce que oui, figurez-vous qu'il y a une différence. Et pour en parler justement de ces subtilités de langage qu'il faut absolument maîtriser, nous accueillons tout de suite notre invitée, Emmanuelle Piette, présidente du collectif féministe contre le viol, qui va tout nous expliquer sur ce qu'est vraiment la culture de viol. Madame Piette, bonjour.
Bonjour.
Alors comme je le rappelais il y a quelques secondes, la semaine dernière, Flavie Flamand a déclaré avoir été violée dans son adolescence. Et là, on a vu pas mal de bourdes de la part des journalistes sur la formulation des articles. Avoue, confesse, révélation, un champ lexical qui appartient à la culpabilité. Est-ce que c'est courant ce genre de confusion dans les termes ?
Ah, je dirais que c'est permanent, c'est-à-dire qu'on est plutôt toujours du côté de l'agresseur. On cherche à rendre responsable la victime du viol dont elle a été victime, toujours.
Et alors, autre souci de formulation que je viens juste à l'instant d'évoquer, mais dont certains ne comprennent pas toujours la subtilité, on ne se fait pas violer. Pourquoi une telle confusion de la part de ceux qui détiennent et transmettent l'information ?
Alors, on se fait violer, ça veut dire qu'on a fait quelque chose pour être violé. Moi, j'ai toujours une image qu'on comprend peut-être mieux, mais les femmes à la libération, elles ont été tondues, elles ne se sont pas fait couper les cheveux. Donc, on avait vu qu'elles n'avaient rien fait. Et dans l'habituel langage, et même dans la pensée collective, il n'y a que quand même qu'elle a été violée, peut-être qu'elle l'a cherchée, qu'elle est... Voilà. Or, ça va avec le stéréotype de la personne victime de viol, qui est en général, on pense, en mini-jupe, jeune femme, la nuit, à Pigalle ou n'importe quoi. Alors que dans 90% des cas, le violeur, c'est quelqu'un de connu, un proche, un papa, un mari, un grand-père, un patron, un prof, quelqu'un qui a du pouvoir. Et l'âge de la victime, c'est de 2 jours à 99 ans. Donc, c'est pas du tout dans ce stéréotype-là.
Bonjour Madame Piette, j'aimerais revenir avec vous sur la formulation que vous avez employée en tout début d'émission. Est-ce que vous pouvez aller plus loin dans l'explication de « on se met toujours du côté de l'agresseur » ?
Alors, on a des mots, des titres par exemple. Dans la presse, on a beaucoup parlé de tournante. Hein, moi, j'ai fait ça au tennis quand j'étais jeune, ou au ping-pong plus tard. Mais je ne fais pas ça en viol en réunion. Je n'appelle pas d'un nom de jeu un crime. Et ça aboutit, que j'ai vu, moi, dans des journaux, le procès des tournantes. Alors, c'est même pas le procès des garçons qui ont commis les tournantes, ni des garçons qui ont commis les viols en réunion. C'est le procès d'un jeu. On comprend pourquoi il est si mal condamné. Et on comprend pourquoi les victimes ont autant de mal à parler. Pourquoi elles nous emmerdent avec un jeu. C'est de ça qui va se passer.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est que c'est maladroit, les mots qui sont utilisés, mais ce n'est pas parce que ces personnes-là les utilisent qu'elles sont du côté de l'agresseur.
En tous les cas, le choix de sociétal est d'utiliser des mots toujours du côté de l'agresseur. Parce que si je reprends le mot tournante, c'est un mot qui a été utilisé par les proxénètes pour subir à des filles des viols en réunion pour qu'elles s'écrasent et qu'elles fassent ce qu'ils veulent qu'elles fassent. Donc, et ils appelaient ça un jeu. Mais c'est pas un jeu, c'est un crime. Donc, utiliser des mots d'agresseur, peut-être inconsciemment, c'est quand même être du côté des agresseurs.
Et alors, on voit... Hein,
quand on utilise pédophile, un gars qui aime les enfants, vous voyez, bon, c'est pas si grave. S'il passe à l'acte, c'est grave. Sauf qu'on les appellerait pédocriminels ou violeurs d'enfants, là, tout de suite, ils sont moins sympathiques. Et on choisit d'utiliser des mots qui les rendent plutôt sympathiques.
Oh bah, excusez-moi, moi, le mot pédophile ne me fait pas penser à une personne sympathique.
Mais si on regarde l'étymologie, c'est quelqu'un qui aime les enfants. Donc, c'est quand même ça qui est choisi. Vous n'emploieriez pas, et c'est regrettable, violeur d'enfants, ça vous arracherait. Et ben c'est pourtant ça qu'il faudrait faire.
Et alors comment
Parce
vous expliquez
la présentation est immédiatement désagréable.
Comment
oui,
vous expliquez
comprends.
Aujourd'hui que les journalistes, notamment donc qui détiennent quand même le pouvoir de l'information, commettent ce genre d'erreur ? Est-ce qu'ils sont assez formés sur le vocabulaire qu'ils emploient et sur l'impact que ça peut avoir, notamment là en l'occurrence sur des victimes de viol ?
Alors, je pense que c'est une culture générale de la société, donc les journalistes, ils font partie de la société, donc ils utilisent le mot de la société qu'on est en train de faire évoluer. C'est vrai que le viol, ça existe depuis la nuit des temps, mais finalement, si je prends par exemple le viol conjugal en France, il n'existe depuis 1992 seulement. Donc, c'est-à-dire comme crime, hein, parce qu'autrement il existait. Donc on voit bien que la société avance doucement. Avant on appelait ça le viol conjugal, la réparation sur l'oreiller. Hein, eh ben non, c'est un crime. Et on voit bien qu'il faut faire évoluer tout le monde, y compris les journalistes. Et bien sûr, ils auraient besoin de formation.
Alors, on a vu il y a quelques mois que la culture du viol était encore très très présente en France, comme en témoigne un sondage dévoilé donc en mars dernier. Alors qu'on pensait que la société se libérait sexuellement parlant, on constate que chez les 18-24 ans, le concept de consentement est parfois difficile à comprendre. Mais pourquoi ?
Alors, D'abord, on avance, hein, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'en 92 officiellement, finalement, il y avait un devoir conjugal et la dame, elle avait dit oui, c'était pour tout le temps, dans n'importe circonstance, dans n'importe condition. En vrai, on avait dans le texte de loi quelque chose autour de « ça nous est égal, si elle veut ou elle veut pas, elle a dit oui, une fois, c'est pour toujours ». Et là, on voit bien que ça évolue, mais doucement, et qu'il faut changer profondément les mentalités. Donc, c'est pas si étonnant que 25 ans après, on ait encore du mal avec le consentement. Mais en vrai, des relations sexuelles, ça se passe à deux, en principe, avec des gens qui sont tous les deux consentants. C'est quelque chose de nouveau qu'il faut qu'un certain nombre de garçons se mettent dans la tête.
Et que dire de la culpabilisation des victimes, que ce soit la tenue vestimentaire, l'attitude, vous en parliez tout à l'heure. Pourquoi est-ce que la faute, elle est toujours du côté féminin et l'agresseur, lui, par contre, bénéficie de circonstances atténuantes.
Attention, pas toujours. Il y a certains hommes qui sont pas très intelligents, mais pas toujours. Et moi, ça me fait saigner les oreilles d'entendre ça. On n'est pas tous pareils, hein, il y a un moment donné.
Ah non, je ne mets pas tout le monde dans le même panier.
Bah oui, mais dire on se met toujours. Il faut arrêter d'employer ces mots-là.
Je parlais de l'agresseur qui bénéficie de circonstances atténuantes parce qu'une femme était en mini-jupe, parce que ci, parce que ça.
D'ailleurs, la faute est toujours du côté... Enfin bref. C'est vrai que moi, voilà, j'ai ce problème avec ce concept de généralité. Comme il ne faut pas généraliser le problème qui se passe avec les femmes, il ne faut pas non plus généraliser que tous les hommes, sont à mettre dans le même panier. Mais je vous laisse répondre, Madame Piette.
Alors, si je regarde les statistiques, hein, c'est une femme sur 10 a subi un viol avant l'âge de ses 18 ans. Donc, c'est beaucoup. Hein. On dit une femme sur 4 va subir un viol ou une agression sexuelle dans sa vie, c'est beaucoup. Et en général, les agresseurs sont des hommes. Mais c'est pas pour ça que c'est peut-être qu'un agresseur, un homme sur 10 est agresseur. Mais ça fait déjà beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Et puis, en ce moment, on a l'impression que ça augmente parce que c'est juste qu'on commence juste à le dénoncer, que donc les femmes ose enfin parler, et c'est difficile de parler quand on est dans des sociétés où on lui dit « mais pourquoi t'étais là ? Et qu'est-ce que t'as fait ? Et pourquoi t'as pas dit non ? Et pourquoi tu lui as pas mis un coup de pied dans les couilles ?» C'est toujours toutes des choses comme ça qu'elle va entendre, ou même qu'elle va se dire. Donc, elle va avoir du mal à parler, et elle va se sentir quelque part responsable de l'agression qu'elle a subie. Alors que, vraiment, si on avait vraiment quelque chose à dire, c'est « elles n'y sont jamais pour rien ».
Alors vous allez pouvoir réagir bien sûr à ce que vous entendez hein, au standard en nous appelant 03 82 21 04 04 que vous soyez d'accord ou non. On vous donne la parole jusqu'à midi et demi. Hein.
Alors justement vous parliez de la parole des femmes qui a du mal à se libérer mais on voit de plus en plus de sites internet notamment des Tumblr qui sont créés pour recueillir les témoignages de femmes de tous horizons. La parole des femmes est-elle en train de s'émanciper grâce à internet ?
Alors, c'est grâce à des tas de choses. Hein. Ça fait 40 ans qu'on dénonce le viol, qu'on pense essayer de changer la honte de camp. Hein. On avait fait une campagne comme ça il y a 5 ans. C'est-à-dire que ce qui devrait avoir honte, c'est les violeurs, c'est pas les victimes. Ça. Elles n'y sont pour rien. Et au fond, c'est déjà si l'ensemble des gens qui entourent une victime pouvaient penser ça, c'est-à-dire elle y est pour rien. Le nombre de petites jeunes femmes qui rentrent chez elles en racontant qu'elles ont été victimes d'agression ou de viol et qui se font engueuler parce qu'elles avaient qu'à rentrer plus tôt ou des choses comme ça, fait qu'elles ont beaucoup de mal à parler. Et si déjà l'entourage, l'environnement des victimes pouvait être chaleureux et penser qu'elles n'y sont jamais pour rien et que c'est l'agresseur qui est responsable, ben ça les aiderait à parler et on avancerait. Alors, quand on est sur des choses sur Internet, on a quand même... il y a aussi des réflexions comme ça qu'on peut prendre. Hein. On peut aussi avoir des endroits, des personnes chaleureuses qui vous répondent, mais on peut aussi avoir des gens... qui disent « mais qu'est-ce que tu foutais là ?» et « tu t'es pas méfié ?» et « comment tu n'y as pas pensé ?» Et c'est pour ça que nous, on a créé cette ligne téléphonique « Viol Femme Information 0800 05 95 95 » qui permet d'avoir des gens qui connaissent bien les mécanismes du viol et qui jamais ne culpabiliseront les victimes. Ça, c'est important pour être entendu, de savoir que ça existe. 10h, 19h en semaine.
Alors comme je le disais, il y a pas mal de Tumblr qui sont sortis sur Internet. On a Paytashneck, c'est un des plus connus. Il y a également Paytarob, ça c'est tout ce qui est avocat. Et il y a également les femmes du monde politique qui ont commencé à libérer leurs paroles. On se rappelle de l'affaire qui concerne Denis Baupin. Alors certes, il a démissionné de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale, mais il est toujours député. Qu'est-ce que ça vous inspire, Madame Piette ?
Alors, moi, ça m'inspire deux choses. C'est d'abord la présomption d'innocence et quelqu'un qui n'est pas jugé, il est présumé innocent. À l'inverse, si on réfléchit bien, ça veut dire que les victimes sont présumées menteuses. Ça énerve un peu. Mais vraiment, il n'a pas la honte, quoi. Il devrait avoir démissionné. Mais on est dans une histoire comme ça. Alors, quand on a avancé sur les histoires crapuleuses, souvent, ils démissionnent, mais pas toujours. Voir ce qui se passe pour les gros hommes politiques qui ont des histoires financières, ils ne démissionnent pas non plus. Donc, je pense que la morale en politique n'est pas encore ce qu'elle pourrait être, mais c'est vrai pour des tas d'autres personnes. Hein. On a des médecins violeurs, mais ça devrait arrêter de travailler tout ça. Et ça, c'est la vigilance, et ça me semble extrêmement important. Et c'est vrai qu'on voit que les femmes victimes de politique, elles se regroupent, elles sont plusieurs, ça vaut plus quand il y a 15 dames qui témoignent que quand il y en a une seule. Et on est en train d'avancer sur ces questions-là.
Alors, selon un récent article publié le 2 octobre dernier, l'une des femmes ayant dénoncé Denis Baupin, Annie Lamère, conseillère régionale en Île-de-France, a déclaré que certains membres du PS ne lui adressaient plus la parole depuis. Qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations ?
Ah, je pense que parmi le personnel politique, celle-ci, je ne sais pas, mais on pense aux réflexions qu'ont fait le personnel politique à l'époque de l'arrestation de DSK. Il y a eu des choses absolument scandaleuses sur tout l'échiquier politique, que c'était un complot, que c'était démenti, que jamais il ferait des comme ça, que tout le monde le connaissait, etc. Alors qu'on s'est aperçu qu'il n'était pas, c'était pas fait unique et qu'il y avait des tas d'autres choses. Ils se tiennent les coudes, je dirais.
C'est une double peine pour vous, ce genre de conséquences ?
Bien sûr. Bien sûr que c'est les victimes qui vont avoir des ennuis, mais ça s'appelle « malheur par qui le scandale arrive ». C'est une vieille histoire et c'est autour de ça qu'on doit bouger et changer les choses.
Et alors là, je m'adresse à mes confrères journalistes. Madame Piette, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux journalistes justement actuels qui emploient des termes malheureux pour parler de viol et qui, malgré eux, alimentent parfois la culture du viol ?
Je pense qu'il faut qu'ils progressent, qu'ils se forment, qu'ils fassent attention, parce que en vrai, porter la suspicion sur les victimes, ça fait mal à ces victimes-là et ça fait mal à l'ensemble des victimes. C'est-à-dire que régulièrement, elles vont se dire, mais voilà comment on est pris quand on parle, donc c'est vraiment pas la peine de parler, je vais être ridicule, ils vont pas me croire, ils vont se foutre de moi, j'aurai des ennuis, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait arrêter, quoi.
Bien, merci beaucoup, Madame Piette, de nous avoir éclairé sur ce sujet.
Au revoir.
Belle journée à vous. Demain, nous nous intéresserons à un sujet bien plus local qui concerne les buralistes frontaliers. Ils n'en peuvent plus et ils craignent tout simplement de finir par disparaître. Hausse des prix du paquet, mais également du tabac à rouler, paquet neutre, ils se sentent impuissants pour faire face à la concurrence des pays frontaliers, comme le Luxembourg chez nous par exemple, l'Allemagne pour l'Alsace ou encore l'Espagne pour le sud de la France. Alors, le gouvernement est-il en train de tuer le commerce de nos buralistes frontaliers ? Que peuvent-ils faire pour s'en sortir ? Nous en discutons demain sans tabou.
Et vous alors, qui êtes prêt à faire des kilomètres, faut le dire, hein, pour payer votre tabac moins cher chez nos voisins ? Seriez-vous prêt à aider nos buralistes à sortir de cette crise ? Pensez-vous que l'État devrait leur donner un coup de pouce ? Jusqu'où et jusqu'à quel prix seriez-vous prêt à payer vos cigarettes en France ? On sait que un pays comme l'Australie est actuellement à plus de 15 euros le paquet de cigarettes. Je crois qu'on est quasiment à 15 euros en Angleterre également. Si demain, c'est une chose qui se passerait chez nous, est-ce que vous arrêteriez de fumer ? Moi, je me pose la question. Est-ce que si vous aviez le choix entre un paquet de cigarettes et un sandwich, vous choisiriez forcément le sandwich. Et ben moi, je suis pas si sûr. C'est à vous de nous le dire. 03 82 21 04 04. On en discute sans tabou. Anne-Sophie, demain.
À demain.
À demain.
Leur FM.
Je sais pas dire les choses qui font rêver avec ces mots sucrés que d'autres ont dû te dire. Je sais pas dire ces vers que j'ai pas lus, parce que j'ai toujours su qu'ils servaient qu'à mentir. Je sais pas faire ces gestes attentionnés qui vous montrent bien élevé, même s'ils ne sont pas sincères. Je sais pas être autrement que je suis, parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je sais pas être celui de toute une vie, même si j'ai aujourd'hui la chance de te connaître. Je sais pas dire ce que tu voudrais entendre, qui pourrait me défendre et même te retenir. Je sais pas faire les projets d'avenir qui sauraient t'éblouir quand tu fermes tes paupières. Je sais pas être celui qui croit encore changer le gris en or. J'ai plus rien à promettre. Je sais pas être autrement que je suis, parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je suis peut-être celui qui a juste envie de dire l'amour qui vire et enfin de l'admettre. L'amour. L'amour qu'il vit et enfin de l'admettre. Je sais pas être autrement que je suis.